sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Lors de la séance interacadémique exceptionnelle du 1er mars 2011, Michel Serres de l'Académie française a prononcé un discours au titre surprenant « Petite poussette ». Sous la coupole de l'Institut de France et en présence du chancelier Gabriel de Breuil, Michel Serres a souligné les différentes mutations pédagogiques qui se sont opérées ces dernières années. Canal Académie vous fait entrer sous la coupole.
Avant d'enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit, au moins faut-il le connaître. Qui se présente aujourd'hui à l'école, au collège, au lycée, à l'université ? Ce nouvel écolier, cette jeune étudiante, n'a jamais vu veau, vache, cochon ni couvée. En 1900, la majorité des humains sur la planète travaillaient au labour et à la pâture. En 2011, la France, comme les pays analogues, ne compte plus qu'1% de paysans. Sans doute faut-il voir là l'une des plus fortes ruptures de l'histoire depuis le néolithique. Jadis référée aux pratiques géorgiques, la culture soudain changea. Celle ou celui que je veux vous présenter cet après-midi ne vit plus en compagnie des vivants, n'habite plus la même terre, n'a plus le même rapport au monde. Elle ou il n'admire qu'une nature arcadienne, celle du loisir et du tourisme. Il ou elle habite la ville. Ses prédécesseurs immédiats, pour plus de la moitié, hantaient les champs. Mais, devenu sensible à l'environnement, il polluera moins, prudent et respectueux, que nous autres adultes inconscients et narcisses. Il n'a plus la même vie physique, ni le même monde en nombre, la démocratie ayant soudain autour de lui bondi vers 7 milliards d'humains. Il habite désormais un monde plein. Son espérance de vie va vers 80 ans. Le jour de leur mariage, ses arrière-grands-parents s'étaient jurés fidélité pour une décennie à peine. Qu'ils et elles envisagent de vivre ensemble, vont-ils jurer d'eux-mêmes pour 65 ans ? Leurs parents, d'autre part, héritèrent vers la trentaine. Ils doivent attendre la vieillesse pour recevoir le même legs. Ils ne connaissent plus les mêmes âges, ni le même mariage, ni la même transmission de biens. Partant pour la guerre, fleurs au fusil, leurs parents offraient à la patrie une espérance de vie brève. Y courront-ils de même avec devant eux la promesse de 6 décennies ? Depuis 60 ans, intervalle unique dans notre histoire, ils et elles n'ont jamais connu de guerre, ni bientôt leurs dirigeants, ni bientôt leurs enseignants. Bénéficiant d'une médecine enfin efficace et en pharmacie d'antalgiques et d'anesthésiques, ils ont, dans leur vie courte, moins souffert statistiquement parlant que l'ensemble de leurs prédécesseurs. Ont-ils eu faim ? Or, religieuse ou laïque, toute morale se résumait en des exercices destinés à supporter une douleur inévitable et quotidienne. Maladie, famine, cruauté du monde. Ils n'ont plus le même corps, ils n'ont plus la même conduite. Aucun adulte ne sut leur inspirer une morale adaptée. Alors que leurs parents furent conçus à l'aveuglette, leur naissance est programmée. Comme pour leur premier enfant, l'âge moyen de la mère a progressé de 10 à 15 années, les parents d'élèves ont changé de génération. Ils n'ont plus la même généalogie. Leurs parents sont divorcés pour plus de la moitié. Alors que leurs prédécesseurs se réunissaient dans des classes ou des amphithéâtres, homogènes culturellement, ils étudient au sein d'un collectif où se côtoient désormais plusieurs religions, plusieurs langues, provenances et mœurs. Pour eux et leurs enseignants, le multiculturalisme est désormais de règle. Pendant combien de temps pourront-ils encore chanter l'ignoble sang impur de quelque étranger ? Ils n'ont plus le même monde mondial, ils n'ont plus le même monde humain. Mais autour d'eux, les filles et les fils d'immigrés venus de pays moins riches ont vécu des expériences vitales inverses. Bilan temporaire. Quelle littérature, quelle histoire comprendront-ils heureux sans avoir vécu la rusticité, les bêtes domestiques, la moisson d'été, 10 conflits, cimetières, blessés, affamés, patrie, drapeaux sanglants, monuments aux morts, sans avoir expérimenté dans la souffrance l'urgence vitale d'une morale. Voilà pour leur corps, et voici pour leur connaissance. Leurs ancêtres appuyaient leur culture sur un horizon temporel de quelques milliers d'années, orné par l'Antiquité gréco-latine, la Bible juive, quelques tablettes cunéiformes et une préhistoire courte. Milliardaires désormais, leur horizon temporel remonte à la barrière de Planck, passe par l'accrétion de la planète, l'évolution des espèces et une paléoanthropologie millionnaire. N'habitant plus le même temps, ils n'ont plus la même histoire. Ils sont désormais formatés par les médias, diffusés par des adultes qui ont méticuleusement détruit leur faculté d'attention en réduisant la durée des images à 7 secondes et le temps des réponses aux questions à 15 secondes, chiffres officiels, dont le mot le plus répété est « mort » et l'image la plus représentée, celle des cadavres. Dès l'âge de 12 ans, ces adultes les forcèrent à voir plus de 20 000 meurtres. Ils sont formatés par la publicité. Comment peut-on leur apprendre le mot « relais » qui en français s'écrit « AIS » alors que dans toutes les gares il est écrit « AY » ? Comment peut-on leur apprendre le système métrique quand le plus bêtement du monde la SNCF leur fourgue des smiles. Nous, adultes, avons doublé la société du spectacle qui est la nôtre d'une société pédagogique dont la concurrence écrasante, vaniteusement inculte, éclipse désormais l'école et l'université. Pour le temps d'écoute et de vision, pour la séduction et l'importance, les médias se sont saisis depuis longtemps de la fonction d'enseignement. Critiqués, méprisés, vilipendés puisque pauvres et discrets, même s'ils détiennent le record mondial des prix Nobel récents et des médailles Fields par rapport au nombre de la population, nos enseignants sont devenus les moins entendus de ces instituteurs riches et bruyants. Les enfants dont je parle habitent donc le virtuel. Les sciences cognitives montrent que l'usage de la toile, lecture ou écriture au pouce des messages, consultation de Wikipédia ou de Facebook n'excite pas les mêmes neurones ni les mêmes zones corticales que l'usage du livre, de l'ardoise ou du cahier. Ils peuvent manipuler plusieurs informations à la fois. Ils ne connaissent ni n'intègrent ni ne synthétisent comme nous leurs ascendants. Ils n'ont plus la même tête. Par téléphone cellulaire, ils accèdent à toute personne. Par le GPS, en tout lieu. Par la toile, à tout le savoir. Ils habitent donc un espace topologique de voisinage alors que nous habitions un espace métrique référé par des distances. Ils n'habitent plus le même espace. sans que nous nous en apercevions, un nouvel humain est né, pendant un intervalle bref, celui qui nous sépare en gros des années 70. Il ou elle n'a plus le même corps, la même espérance de vie, ne communique plus de la même façon, ne perçoit plus le même monde, ne vit plus dans la même nature, n'habite plus le même espace. Né sous péridurale et de naissance programmée, ne redoute plus sous point palliatif la même mort. N'ayant plus la même tête que celle de ses parents, il connaît autrement. Il ou elle écrit autrement. Pour l'observer avec admiration, envoyer plus rapidement que je ne saurais jamais le faire de mes doigts gourds, envoyer, dis-je, des SMS avec ses deux pouces, je les ai baptisés avec la plus grande tendresse que puisse exprimer un grand-père, petite poussette et petit poussé. Voilà leur nom, plus joli que le vieux mot pseudo-savant de dactylo. Ils ne parlent plus la même langue. Depuis Richelieu, l'Académie française publie à peu près tous les 20 ans, pour référence, le dictionnaire de notre langue. Au siècle précédent, 4 pour dire vrai, la différence entre deux publications s'établissait autour de 4 ou 5 000 mots, à peu près constants dans les siècles. Entre la précédente publication et la prochaine, la différence sera exactement de 27 000 mots. À ce rythme, on peut deviner qu'assez vite, nos successeurs pourraient se trouver demain aussi séparés de notre langue que nous le sommes aujourd'hui de l'ancien français pratiqué par Chrétien de Troyes ou par Joinville. Ce gradient donne une indication quasi photographique des changements que je suis en train de décrire devant vous. Cette immense différence qui touche toutes les langues tient en partie entre les métiers des années récentes et ceux d'aujourd'hui. Petite Poussette et son ami ne s'évertueront plus aux mêmes travaux. La langue a changé, les labeurs ont muté. Mieux encore, les voilà devenus tous deux des individus. Inventé par saint Paul au début de notre ère, l'individu vient de naître en réalité aujourd'hui. De jadis jusqu'à naguère, nous vivions d'appartenance. Français, catholiques, juifs ou protestants, gascons ou picards, femmes ou mâles, indigents ou fortunés, nous appartenions à des régions, des religions, des cultures rurales ou urbaines, des équipes, des communes, un sexe, un patois, la patrie. Par voyage, images, toiles ou guerres abominables, ces collectifs ont peu à peu explosé. Ce qui reste, c'est filoche. L'individu ne sait plus vivre en couple, il divorce. Ne sait plus se tenir en classe, il bouge et bavarde. Ne prie plus en paroisse. L'été dernier, nos footballeurs n'ont pas su faire équipe. Nos politiques savent-ils encore construire un parti plausible ou un gouvernement stable? On dit partout mortes les idéologies. Non, ce sont les appartenances qu'elles recrutaient qui s'évanouissent. Ce nouveau-né individu, voilà, je le crois, une bonne nouvelle. En effet, à balancer les inconvénients de ce qu'on appelle égoïsme par rapport aux crimes commis par et pour la libido d'appartenance des centaines de millions de morts, j'aime d'amour ces jeunes gens. Cela dit, reste à inventer de nouveaux liens. En témoigne le recrutement de Facebook, quasi équipotent à la population mondiale. Comme un atome sans valence, petite poussette est toute nue. Nous, adultes, n'avons inventé aucun lien social nouveau. l'entreprise généralisée du soupçon et de la critique contribua plutôt à les détruire. Rarissime dans l'histoire, ces transformations que j'ai appelées ominescentes créent au milieu de notre temps et de nos groupes une crevasse si large et si évidente que peu de regards l'ont estimée à leur vraie taille. Elle est comparable, je le crois, à celle visible du néolithique, à l'aurore de la science grecque, au début de l'ère chrétienne, à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. Sur la lèvre aval de cette faille, voici des jeunes gens auxquels nous prétendons dispenser de l'enseignement au sein de cadres datant d'un âge qu'ils ne reconnaissent plus. Bâtiments, cours de récréation, salles de classe, amphithéâtre, campus, bibliothèque, laboratoire, savoir même, cadres datant, dis-je, d'un âge et adaptés à une ère où les hommes et le monde étaient ce qu'ils ne sont plus. Trois questions maintenant, par exemple. Que transmettre? À qui le transmettre? Comment le transmettre? Que transmettre? Le savoir. Jadis et naguère, le savoir avait pour support le corps du savant, qu'il soit un naède, qu'il soit un griot. Une bibliothèque vivante, voilà le corps enseignant du pédagogue. Peu à peu, le savoir s'objectiva, d'abord sur des rouleaux, sur des vélins ou parchemins, support d'écriture. Puis, dès la Renaissance, dans des livres de papier, support de l'imprimerie. Enfin, aujourd'hui, sur la toile, support de messages et d'informations. L'évolution historique du couple support-message est une bonne variable de la fonction d'enseignement. Du coup, la pédagogie changea au moins trois fois. Avec l'écriture, les Grecs inventèrent la païdéia. À la suite de l'imprimerie, les traités pédagogiques pullulèrent. Et aujourd'hui, je le répète, que transmettre? Le savoir. Le voilà, partout sur la toile, disponible, objectivé. Le transmettre à tous? Mais désormais, tout le savoir est accessible à tous. Comment le transmettre? Voilà, c'est fait. Avec l'accès aux personnes par le téléphone cellulaire, avec l'accès aux lieux par le GPS, l'accès au savoir est désormais ouvert. D'une certaine manière, il est toujours et partout déjà transmis. Objectivé, certes, mais de plus, distribué, non concentré. Nous vivions, je l'ai dit, dans un espace métrique référé à des centres, c'est-à-dire à des concentrations. Une école, une classe, un campus, un amphi, voilà des concentrations de personnes, d'étudiants, de professeurs, de livres, d'instruments dans les laboratoires. Ce savoir, ces références, ces textes, ces dictionnaires, les voilà distribués partout et en particulier chez vous. Même les observatoires, mon cher Pierre Léna. Mieux, en tous les lieux où vous vous déplacez, de là étant, vous pouvez toucher vos collègues, vos élèves, où qu'ils passent, où qu'ils soient. Ils vous répondent aisément. L'ancien espace des concentrations, celui-là même où je parle et où vous m'écoutez, que faisons-nous ici? Cet espace se dilue, se répand. Nous vivions, je viens de le dire, dans un espace de voisinage immédiat, mais de plus distributif. Je pourrais vous parler de chez moi ou d'ailleurs. Vous m'entendriez ailleurs ou chez vous. Que faisons-nous donc ici? Ne dites pas surtout que petite poussette ou petit poussé manque des fonctions cognitives qui permettent d'assimiler le savoir ainsi distribué, puisque justement ces fonctions cognitives se transforment selon les supports. Par exemple, à l'époque de l'écriture et de l'imprimerie, la mémoire muta au point que Montaigne demanda une tête bien faite et non pas une tête bien pleine. cette tête vient de muter encore une fois. De même donc que la pédagogie fut inventée paideia par les Grecs, au moment de l'invention et de la propagation de l'écriture, de même qu'elle se transforma quand émergea l'imprimerie à l'époque de la Renaissance, de même la pédagogie change totalement avec les nouvelles technologies. Et je le répète, elles ne sont qu'une variable quelconque parmi la dizaine ou la vingtaine que j'ai citées ou que je pourrais citer. Ce changement si décisif de l'enseignement, changement répercuté sur l'espace entier de la société mondiale et sur l'ensemble de ses institutions désuètes, changement qui ne touche pas et de loin l'enseignement seulement, mais aussi le travail, les entreprises, la santé, le droit, la politique, bref, l'ensemble de nos institutions, nous sentons en avoir un besoin urgent, mais nous en sommes encore loin. Probablement parce que ceux qui traînent dans la transition entre ces derniers États n'ont pas encore pris leur retraite, alors qu'ils diligentent les réformes selon des modèles depuis longtemps évanouis. Enseignant moi-même, depuis un demi-siècle sous à peu près toutes les latitudes du monde, où cette crevasse s'ouvre aussi largement que dans mon propre pays, j'ai souffert ces réformes-là comme des emplâtres sur des jambes de bois ou des rapetassages. Or, les emplâtres endommagent le tibia, même artificiel, et les rapetassages déchirent encore plus le tissu qu'ils cherchent à consolider. Oui, depuis quelques décennies, je vois que nous vivons une période comparable à l'aurore de la paideia, après que les Grecs apprirent à décrire et à démontrer, semblable à la Renaissance, qui vit naître l'impression et le règne du livre apparaître, période incomparable pourtant, puisqu'en même temps que ces techniques changent, le corps s'est métamorphosé, a changé la naissance, s'est transformé la mort, où la souffrance et la guérison se sont métamorphosées, où les métiers, l'espace, l'habitat, l'être au monde même a muté. Face à ces mutations considérables, sans doute convient-il d'imaginer d'inimaginables nouveautés, hors les cadres désuets que forment encore nos conduites, nos médias et nos projets exclusivement adaptés à la société du spectacle. Je vois nos institutions aujourd'hui luire d'un éclat semblable à celui des constellations dont mes amis astronomes m'avaient appris qu'elles étaient mortes depuis longtemps déjà. Pourquoi ces nouveautés ne sont-elles point advenues ? Je crains fort de devoir en accuser les philosophes dont je suis, gens qui ont pour métier d'anticiper le savoir et les pratiques à venir et qui ont, ce me semble, failli à leur tâche. Engagés dans la politique au jour le jour, ils n'ont pas vu émerger le contemporain. Si j'avais eu à croquer le portrait des adultes dont je suis, le profil que je viens de dessiner eût été moins flatteur. Oui, je voudrais avoir 18 ans, l'âge de petites poussettes et de petits poussés, puisque tout est à refaire. Non, puisque tout reste à inventer. Je souhaite que la vie me laisse assez de temps pour y travailler encore en compagnie de ces petits, auxquels j'ai dévoué toute ma vie, parce que je les ai toujours respectueusement aimés.
Canal Académie vous invite à écouter l'intégralité de l'émission « Les nouveaux défis de l'éducation ». À l'occasion de la séance interacadémique exceptionnelle, vous retrouverez les discours de Gabriel De Breuil, chancelier de l'Institut de France, de Xavier Darcos, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, et de Pierre Léna de l'Académie des sciences. Rendez-vous sous la coupole.